Vous êtes Catan, Satan. Tu triompheras sur toute la surface de la Terre. Et ce sera la fin du monde.
Bonjour, aujourd'hui dans le fil de l'histoire, cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à l'hérésie cathare au Moyen-Âge. Les cathares, vrais hérétiques ou invention de l'Église? C'est la question que l'on pose avec l'historien Arnaud Fossier. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment le pape Innocent III a lancé une véritable croisade armée, la croisade des Albigeois, dans le but d'éradiquer l'hérésie en Languedoc, sans y parvenir. La croisade des Albigeois s'est donc achevée en 1229 avec beaucoup de sang versé, mais sans que l'hérésie ait pu être éliminée du Languedoc. Par la voix du nouveau pape, Grégoire IX, l'Église, qui n'entend rien lâcher, met en place une nouvelle stratégie qui, encore avec beaucoup de sang versé et de terreur, va se révéler payante, la création de l'Inquisition. Dans le but, je cite, « d'extirper la dépravation hérétique », l'Église, qui ne fait plus confiance aux juridictions locales, envoie sur le terrain ses propres juges. Comme on peut l'imaginer, les premiers inquisiteurs désignés par Rome ne sont pas les bienvenus quand en 1233, ils arrivent à Toulouse et à Carcassonne pour y installer leurs tribunaux. Leur première tâche, enquêter pour trouver des coupables. La méthode, se fier à la rumeur publique et aux dénonciations. Quand ils arrivent dans une ville ou un village, les inquisiteurs convoquent les habitants pour les appeler ni plus ni moins à la délation. Menacés d'excommunication, la plupart acceptent de dénoncer des suspects. Deuxième étape, interroger les suspects pour en obtenir des aveux. Seule une confession où le suspect exprime son repentir méritera pénitence. Si le suspect résiste à parler, l'inquisiteur peut recourir à la torture. Les peines varient entre prison, pèlerinage expiatoire, flagellation en place publique ou encore peine de mort.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Jean Tisser, le tribunal de la Sainte Inquisition, devant la preuve avouée de votre hérésie, et constatant avec douleur que vous demeurez dans votre fausse croyance, vous abandonne au bras séculier, à charge pour celui-ci d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos cendres au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon.
Vous êtes l'église du démon ! Du démon !
Mais les populations ne restent pas inertes. La violence de ces premiers inquisiteurs, qui organisent des bûchers ou ordonnent l'exhumation de cadavres afin de les brûler, provoque de véritables levées de boucliers. À Albi, par exemple, des émeutes éclatent et l'inquisiteur, malmené, manque de peu d'être jeté dans le Tarn.
Vous feriez mieux de rentrer chez vous.
Pourquoi ?
Vous n'aurez guère de résultats ici. Parce qu'ici, en Albigeois, et dans tout le Midi, les chrétiens peuvent comparer nos deux églises. La nôtre, qui est l'église pure et simple des origines, l'église de l'esprit et de la charité. La vôtre, qui opprime et qui tue.
En 1242, deux inquisiteurs qui passaient la nuit à Avignonnet sont assassinés dans leur sommeil par une troupe d'hommes qui avaient fracassé leur porte à coups de hache. Une chronique de l'époque rapporte, je cite, qu'on dépouilla les corps des inquisiteurs, on fit main basse sur leurs livres et leurs bagages, puis tous ou presque prirent la fuite pour Montségur. C'est d'ailleurs à Montségur que 2 ans plus tard va se jouer l'épilogue de cette guerre. Pour échapper à l'Inquisition, de nombreux cathares se sont réfugiés dans la forteresse de Montségur, perchée sur un piton rocheux des Pyrénées. Après un siège de 11 mois, mené par une armée du roi, les assiégés se rendent. Les cathares qui abjurent leur foi auront la vie sauve. Les 220 qui refusent, des hommes et des femmes, mourront brûlés vifs sur un bûcher à Montségur le 16 mars 1244. Arnaud Fossier, est-ce que cette date, donc 1244, marque la fin des cathares ou de ceux que l'Église appelle les cathares ?
Non, alors c'est un événement dont l'importance a été amplifiée, notamment par un roman que Zoé Oldenburg lui a consacré dans les années 1950. Donc c'est ce qui a fait aussi la célébrité de cet épisode. Alors évidemment qu'il y a quelque chose de très marquant, hein, 220 personnes qui sont condamnées au bûcher, ça n'est pas rien. Mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas du tout mis un terme à l'hérésie et à la dissidence. C'est-à-dire que l'Inquisition a continué son œuvre. Les inquisiteurs qui sont issus des ordres dits mendiants, les franciscains et les dominicains principalement.
Ce sont des moines.
Oui, tout à fait, des religieux en tout cas, sont itinérants et s'implantent là où la dissidence est réputée coriace, particulièrement coriace. Et c'est là, comme vous le disiez, qu'ils mènent des enquêtes, parfois de très très grandes enquêtes, qui les amènent à interroger des milliers et des milliers de personnes. Et ça, ce sera le cas jusque dans les années 1320. Donc Montségur ne met pas fin à la dissidence et ne met pas fin à l'action des inquisiteurs.
Alors vous parlez à propos de cette inquisition dans votre livre d'années terribles et d'une véritable chasse à l'homme. Pourquoi l'inquisition, une méthode finalement, enfin en apparence, plus administrative et juridique, s'est révélée plus payante que la croisade ?
Alors, clairement, l'Inquisition a été créée par le pape pour pallier les défaillances ou la faillite de la croisade. S'il y a un changement de méthode, c'est parce que précisément, les clercs sont tout à fait conscients que la violence extrême, surtout si elle est extrême, ne fait que renforcer la contestation et même la détestation, en fait, de l'Église. Donc si, et le but est bel et bien celui-ci, le but, évidemment, est de faire abjurer l'hérésie aux hérétiques et de les faire rentrer dans le giron de l'Église. Donc...
Et le fait aussi de favoriser la délation, les dénonciations, c'est une manière aussi de créer le doute et la division
en face. Bien sûr, absolument, absolument. Et c'est sans doute le meilleur moyen aussi de démanteler des réseaux qui, à ce moment-là, au milieu du XIIIe siècle, ce sont des réseaux tout de même assez ramifiés, en particulier dans le Languedoc. Donc, les appels à la délation... Alors, en réalité, on sait que ces appels à la délation n'ont pas extrêmement bien fonctionné dans un certain nombre de lieux. Mais malgré tout, l'idée est bien de démanteler l'hérésie.
On comprend que ces années terribles, comme vous dites, aient marqué en profondeur la culture régionale. On comprend aussi que les cathares aient pu servir aussi de modèle à ceux qui se battaient contre un pouvoir qu'ils jugeaient illégitime. Le film de Stelio Lorenzi, Les cathares, dont on a entendu quelques extraits, film qui a été tourné en 1966 pour le RTF, a beaucoup participé à l'engouement dans les années 60-70 pour les cathares. Symbole de quoi, ce film ? La résistance contre le pouvoir centralisateur de Paris. On est 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il y a aussi des références comme ça qui reviennent.
Des réminiscences, oui, vous avez raison, ce film, je le conseille à tout le monde, il est vraiment remarquable, il est très intéressant. Mais il est surtout très emblématique de l'époque, effectivement, dans laquelle il est conçu et de la manière dont on relie à ce moment-là l'hérésie cathare comme, vous avez raison, une forme de résistance au pouvoir central, mais finalement aussi une forme de résistance à une puissance occupante. C'est pour ça que je parlais de réminiscence par rapport évidemment à la Seconde Guerre mondiale et à toute la séquence de l'occupation. Et puis, il faut avoir aussi en tête quand même que on sort tout juste de la guerre d'Algérie et que c'est aussi une relecture de la manière dont l'État français a colonisé un certain nombre de pays. Donc, c'est aussi une dénonciation de l'État colonial dans un contexte de décolonisation avancée.
Conclusion, le mot cathare, donc, sans doute, a été inventé par l'Église, comme vous l'avez dit, Arnaud Fossier, mais finalement, ça ne change pas grand-chose. La contestation envers une Église refusant toute réforme et la résistance à la répression ont été bien réelles dans le Languedoc, c'est un passé dont on peut être fier.
Oui, d'une certaine... Oui,
cathare ou pas.
Tout à fait. Et puis, bon, le livre d'histoire que j'ai écrit n'a pas la prétention ou l'intention de dire aux gens qu'ils devraient arrêter de projeter dans ce mythe cathare ce qu'ils ont envie d'y projeter.
Bah
c'est
non,
très
les gens
bien.
Font ce qu'ils veulent.
Oui, les gens font ce qu'ils veulent et l'histoire ne coïncide pas toujours avec la mémoire collective et l'imaginaire collectif qu'on se fait autour d'un phénomène.
Oui, mais c'est bien de rappeler certaines vérités.
Oui,
et d'établir, en tout cas, de rétablir des vérités, ce qui n'empêche pas aussi qu'on aille visiter les forteresses royales languedociennes, même si on ne les appelle plus des châteaux cathares.
Absolument.
Ces châteaux sont magnifiques et j'invite tout le monde à aller les visiter. Merci beaucoup Arnaud Fossier de nous avoir rappelé cette page de notre histoire. De vous, on peut lire donc sur le sujet « Les cathares, ennemis de l'intérieur » publié par la Fabrique Édition. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission était réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin, à la technique Loïc Frapsos.